EMCI TV vous présente l'émission Teach avec Atoms. Un temps d'enseignement et d'étude de la parole de Dieu afin de faire de vous des disciples et vous aider à grandir dans votre foi.
Bienvenue à vous sur Teach, sur cette semaine de sanctification. Toute une semaine, on parle que de la sanctification. J'ai commencé à parler dès la première session de que veut dire sanctification, puis j'ai fait une petite distinction des différentes formes de sanctification. Aujourd'hui, ce que nous allons faire, c'est d'essayer un peu de ôter cet amalgame qui a souvent autour de certains termes lorsqu'on en parle à l'Église. Parce que mon but ici, c'est que vous aimiez vivre une vie de sanctification. Quand on parle à l'Église, on aime utiliser les mots pureté, sainteté, crainte de Dieu, avec sanctification. Rien que pour parler de ces quatre-là. Des fois, on en mélange beaucoup. Le prédicateur dit, bien-aimé, vous devez vivre dans une vie de pureté. Vous devez rester dans la crainte de Dieu. Est-ce qu'il dit la même chose? Qu'est-ce qu'il y a comme nuance? Est-ce que c'est vraiment exactement le même concept? Je n'ose pas forcer des distinctions, là, il n'y en a pas. Mais il est important que vous sachiez qu'est-ce qui se passe à l'intérieur, qu'est-ce qui se passe à l'extérieur et comment ces quatre notions se marient ou se mettent ensemble. Alors, let's teach. Grandissons ensemble. Il s'agit donc ici de quatre termes. Le premier, c'est sainteté. Vis une vie de sainteté. Frères et sœurs, nous devons vivre dans la sainteté. Après, demain, il dit, nous devons vivre dans la sanctification. C'est pas ce qu'il avait dit hier, déjà? Alors, la sainteté, vous devez comprendre fondamentalement cette notion, ce que ça signifie. Sainteté, dites-vous tout de suite, égale à être mis à part pour Dieu. C'est ça le concept. Être mis à part pour Dieu. Ne confondez pas saint avec un T, avec saint santé. En français, surtout comme ça. Il ne s'agit pas d'être saint, il y a saint et sainte, et il y a saint et saine. Alors, souvent quand on dit ce qui est saint, avec un T, nous, la première des choses, on pense qu'il s'agit de ce qui est saint, santé. Ce qui est sanitairement bien, qui est propre, c'est ce qu'on pense. Or non, la notion biblique de saint avec T n'a d'abord pas à voir avec la propreté, le côté sanitaire. La notion biblique de saint a d'abord à voir avec l'idée de distinction, séparation, mettre à part. J'ai entre mes mains une tasse de thé de couleur blanche. À côté de moi, j'ai ma Bible et j'ai aussi mon iPad. Au milieu de tout ce que j'ai comme ustensile ici, c'est à moi. Mais si on en prend un, on dit ça, tu ne peux plus l'utiliser, c'est un Michael. Cette tasse est un Michael. Je ne peux plus boire dessus, ce n'est plus à moi, je n'en suis plus propriétaire. Cette tasse a été sanctifiée. C'est pas qu'elle est devenue plus saine, c'est-à-dire qu'elle a été attribuée à quelqu'un d'autre, attribuée à un autre but. Je ne peux plus en faire usage que je faisais avant parce que c'est attribué à un but plus excellent. À partir de ce moment, ça quittait cette catégorie pour appartenir à une autre catégorie. Et Dieu, quand on enlève quelque chose de la masse, on le met des côtés pour l'usage de Dieu. Et que le but maintenant, ce Dieu qui en décide, c'est devenu voué à sa personne. Ça s'appelle sanctifier. Et ça, il s'agit de poser l'acte de la sainteté. Cette chose devient sainte. La tasse est sainte tasse. Ça veut dire tasse consacrée, tasse mise à part pour Dieu. Lévitique chapitre 19, verset 2. Parle à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Et tu leur diras, soyez saints, car je suis saint, moi l'Éternel, votre Dieu. Voyez, il dit, vivez à part parce que moi, Dieu, je suis complètement à part, distinct de tout. Soyez tout autant consacrés à autre chose, mis à part. Ne vous mettez pas dans la mêlée parce que moi, Dieu, je ne me mêle pas, je suis pas mélangé avec ces choses-là. 1 Pierre chapitre 1, versets 15 à 16. Mais, puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qui est écrit, vous serez saints car je suis saint. Il dit, soyez saints dans toute votre conduite. Il ne veut pas dire que soyez propres, soyez sanitairement propres. Il veut leur dire, au milieu de tous les hommes, la façon dont tout le monde se conduit, quand on voit la façon dont vous vous faites, on sent qu'il y a de la distinction, de la différence. Donc dans le mot sainteté, retenez d'abord être mis à part, être différent, être mis de côté, se tracer une ligne autre que celle du monde. Lorsque donc le prédicateur vous dit « Frère, vivons dans la sainteté », il est en train de renforcer l'idée selon laquelle « Vivons en différence ». Soyons différents du monde, vivons comme des personnes qui sont mises de côté. Vivons comme des personnes qui ont été consacrées. Voilà les termes qui viendra beaucoup avec sainteté. Consacrés, on a été mis de côté. On est saint, on a été mis à part. Frères et sœurs, vous et moi, nous avons été mis à part. J'aime quand Pierre dit, vous, par contre, vous êtes une race élue, un peuple saint, un sacerdoce royal. Vous êtes mis de côté pour le but de Dieu. La sainteté, frères et sœurs, nous est obligatoire. Nous tous, nous avons été mis de côté. Nous devons donc, de par notre nature, nous, quand je dis tous, je parle de chrétiens, par notre nature alors, vivre, affirmer que nous avons été consacrés, mis de côté. Au moment où Dieu a dit, cette tasse, comme je donnais l'exemple tout à l'heure, cette tasse est à Michaël, l'usage a changé. J'aime comment l'apôtre en parle, il dit, nous qui étions des vases, dans la maison il y a des vases avec des usages différents. Il y a des vases d'usage vil, il y a des vases d'usage prestigieux qu'on réserve pour les spéciales. Il dit, soyez donc ces vases utiles. Vases, c'est des vases. Quand vous allez des vases, deux fois faites de la même matière, mais juste l'ornement, on y change quelque chose. Moi, j'ai grandi chez nous, chez mes parents. Ma mère avait toujours dans une armoire des assiettes qu'on n'y mangeait jamais. Quand on demande à ma maman, mais c'est quoi ces assiettes? Elle disait, ça ce sont des assiettes pour les invités. Tiens, nous à la maison, on n'y mangeait jamais. Il y en avait même d'autres qu'elle disait, ça ce sont des assiettes pour vos sœurs lorsqu'elles vont se marier. Une fois que je me suis marié, j'ai vu que ma femme a pris les mêmes habitudes. Il y avait des belles assiettes, très jolies, qu'il y avait toujours dans l'armoire. Et moi, quand je venais, que bon, je voulais faire rapidement ce que je dois faire, ma femme dit, non, pas ça, touche pas ça. Ça, c'est son, va prendre à la cuisine. J'ai dit, oh! La première fois, la deuxième fois, après, je me suis dit, non. Non, je peux plus supporter ça. Je viens de dire à ma femme, mais les assiettes qu'il y a, qu'on touche pas, c'est à qui? Dis non, ça ce sont des assiettes pour les invités, tu sais, quand les invités disent. Et moi je dis, mais attends, moi j'habite ici, c'est moi le papa de la maison, qui paie le loyer, qui s'occupe de tout le monde, qui achète les assiettes, et il y a des assiettes qu'on réserve à des personnes qui seront plus précieuses que moi. Donc moi j'ai pas le droit de manger dans ces assiettes-là, parce qu'on attend qu'un quelconque invité vienne un jour. J'ai dit non, à partir d'aujourd'hui, je vais inaugurer toutes ces assiettes. Et ma femme, elle a brisé cette règle-là. Elle dit, ah, tiens, en fait, en réalité, t'as raison. Normalement, si on doit honorer quelqu'un dans cette maison, c'est toi. On ne doit pas donner ce qui est vil à celui qui est censé être le père de la maison. Elle a pris plaisir à commencer à me servir des vases, des assiettes qui étaient saintes. Des assiettes qu'on avait dans le milieu de toutes les assiettes. Ces assiettes-là étaient mises de côté pour un but différent. Frère, nous sommes peut-être dans le même bureau, nous sommes peut-être dans la même salle de classe, on est tous peut-être habillés en uniforme. Mais toi, tu es mis de côté. Toi, tu es saint. Ah, tu veux me faire croire que toi, tu es saint, tu n'as pas péché. Non, attends. Saint, c'est, ne suis pas d'abord l'idée de pas pécher. Suis l'idée que j'ai été ôté du monde et des péchés. J'ai été éloigné de ça. Ça, ce n'est pas ma vie. Il m'a sorti de là, il m'a mis de côté. Nous allons dans les mêmes universités, nous entrons dans les mêmes boutiques, mais nous ne sommes pas tous au même endroit. Certains sont mis de côté, mis à part, saint. Alors quand on encourage les chrétiens à vivre comme des saints, ça signifie vivez votre vie des personnes mises à part. J'aime beaucoup comment dans certaines traditions chrétiennes, on met en avant cela comme des monastères ou des choses comme ça, ou des personnes qui sont si consacrées à l'œuvre et à leur appel pastoral ou à leur appel au ministère, en vont jusqu'au point de se détacher de toute communauté et de vivre seul. Avez-vous déjà rencontré un moine? Vous avez l'impression qu'il vit quelque part entre le ciel et la terre. Il a d'autres principes. Son rythme, sa démarche même. Comment il est doux et calme? On dirait qu'il ne vit pas comme nous. Eh bien, c'est ça être un chrétien. Ce n'est pas être un moine. Mais en fait, c'est être là au milieu de tous, mais être mis à part. Ça s'appelle vivre dans la sainteté. Deuxième terme, le terme pureté. Pureté est liée avec l'idée de absence de souillure. Alors, absence de souillure. La notion de souillure vient dans l'Ancien Testament, elle se manifeste dans l'Ancien Testament, mais elle a des dimensions différentes. Dieu, quand il est en train de réglementer le peuple, il donne des règles au peuple d'Israël, ok? Le peuple d'Israël quitte comme des clans, des familles en dessous, à l'intérieur d'une nation. Quand ils quittent, eux-mêmes, ils ne sont pas organisés comme une nation. Donc, Moïse commence à les organiser progressivement comme une nation. Donc, il faut éditer des lois, il faut ainsi de suite. Mais quand Dieu donne des lois, il donne toutes les lois. Les lois sociales, le code de la famille, le code pénal. Et il donne même des lois sanitaires. Mais puisque ça émane de Dieu, toutes ces lois ont une connotation, j'allais dire, religieuse ou spirituelle. Par exemple, lorsqu'une femme est dans ces périodes, la Bible dit qu'elle est impure, elle n'assiste pas à certaines réunions et elle doit se laver autant de fois, tout et tout, et juste, son mari ne doit pas la connaître, juste à une certaine période. Ces règles-là sont d'abord sanitaires. Mais comme ça émane de Dieu avec un peuple dans le désert, il dit que quand la femme est dans cet état, au lieu de dire, comme dans les termes d'aujourd'hui, on dirait qu'elle est peut-être... elle est contagieuse ou elle est sale ou elle serait capable de contaminer quelqu'un ou bien son écoulement de sang peut être un risque d'infection pour les autres ou quoi. J'ai tenté de trouver les meilleurs mots. Hein. Mais en fait, la Bible dit qu'elle est souillée. Du coup, le concept de souiller est devenu juste le concept de dire qu'il n'a pas droit à l'assemblée. Il n'a pas droit d'être ensemble avec les autres et de vivre ensemble avec les autres. Il est considéré comme mis à part de la mauvaise manière. Il est mauvais. Elle est mauvaise. Elle n'est pas admissible. Donc la souillure, même pour des règles sanitaires, hygiéniques, est devenue comme une affaire spirituelle. On est tous souillés. La pureté, c'est le fait de vivre une vie à l'absence de souillure. Ici, la véritable souillure, c'est le péché. Alors Jésus-Christ l'explique comme ceci. Il dit, ce n'est pas ce qui entre qui souille l'homme. Il clarifie la notion. Il dit, on n'est pas souillé parce qu'on a mangé sans avoir lavé les mains et que justement parce qu'on a mangé. On mange, si on n'a pas lavé les mains, les textes disaient que c'est souillé. Non, Jésus leur dit, non, en réalité... C'est juste que c'est malpropre. La vraie souillure, c'est en fait l'état de péché qui nous éloigne de Dieu et qui nous fait exclure dans l'assemblée. C'est cette chose-là, lorsqu'on le vit, qu'on n'a pas droit de communion avec Dieu. Ça nous éloigne de Dieu. Et cette chose-là s'appelle le péché. Et ce n'est pas dans le pain que tu manges que se trouve quelque chose qui va souiller ton état de la relation avec Dieu. C'est plutôt de ton cœur, de l'intérieur. Si s'y développe des mauvaises choses, de l'impudicité, de la rancune. Alors Jésus résume ça en disant ceci. Ce n'est pas ce qui entre qui suit l'homme, mais c'est ce qui sort qui suit l'homme. C'est ce qui sort de son cœur parce que c'est du cœur que viennent toutes les mauvaises choses. À partir de ce moment, on a compris que quand on parle des puretés, on est en train de parler du fait de vivre loin du péché. Quand du frères et sœurs vivant une vie de pureté, ça veut dire s'éloigner de tout contact des choses qui peuvent nous mettre en état de briser notre relation avec Dieu, en état de d'empêcher notre communion avec les autres. On devient comme une faiblesse de la communion avec les autres. Souvenez-vous de ce que Dieu dit. Dieu dit ceci, mon oreille n'est pas sourde pour entendre, ni ma main courte pour toucher. Mais ce sont vos péchés qui causent cet éloignement. Quand on insiste que nous, frères et sœurs, devons vivre une vie de pureté, ça veut juste dire, mets-toi loin de tout ce qui peut atteindre ta relation avec Dieu. Le péché. Les personnes que tu fréquentes, les endroits que tu as, que tu vas, les choses que tu touches. Quand tu pèches avec ton propre, ton corps, tu ressens, tu as cette conscience que le mal est sur toi. Tu te sens souillé. Tu sens comme si tu, le souvenir de l'iniquité, toi et ton péché, vous êtes devenus comme un. Et quand on encourage à la pureté, on encourage à l'éloignement maximal de tout ce qui perturbe notre relation avec Dieu. L'éloignement maximal de tout ce qui nous met une conscience d'impureté. L'éloignement maximal de tout ce qui détruit notre vie de prière, qui détruit notre vie d'intimité avec Dieu. C'est ça, vivre dans la pureté, dans l'absence de toute souillure. Alors, n'oublions pas que c'est ce qui est dans l'intérieur de l'homme qui le souille. Ça veut dire, vivre une vie de pureté, c'est garder son cœur plus que tout, pour que de son cœur ne puisse pas émaner des choses impures. Vivre une vie de pureté, mes amis, c'est quand tu dis, frère, garde tes yeux purs, ne m'a pas regarder les mauvais films. Qu'est-ce qu'on essaie de te dire? On essaie de te dire, si tu continues à consommer ces genres de nudité dans les vidéos que tu regardes, demain, c'est ce que tu vas commencer à produire. Quand tu vois quelqu'un habillé que puisse être, quelles que soient ses intentions, toi, tu es déjà borné, figé dans ta tête. Tu ne peux que produire ces genres de choses que tu as reçues. On ne devient que ce qu'on a consommé. Et du coup, tes pensées sont impures. Ah non, cette sœur-là, vraiment, elle veut nous séduire. La sœur t'a séduit en quoi? Il y a des choses qu'il y a déjà dans ta tête que ton cœur commence à produire de l'impureté. Psaume 24, 3 à 4. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Vous voyez ce que le psalmiste dit? Celui qui a le cœur pur. Vous voyez d'où vient la véritable pureté? Matthieu 5, 8 dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. La pureté, ce n'est pas d'abord une affaire physique. C'est d'abord une affaire de cœur. Elle est liée au péché et non pas aux règles sacerdotales. Elle est liée à la nature pécheresse, de comment on nourrit la nature pécheresse par le contact de ce qui est péché. Si tu t'attaches à ce qui est péché, tu entraînes ton cœur à produire le péché. Alors, vivre dans la pureté veut dire s'abstenir de tout ce qui va souiller ton cœur. Troisièmement, vient le terme crainte de Dieu. On l'entend souvent tout de suite à côté de la sanctification. J'espère que jusqu'à aujourd'hui, ça va. Jusqu'à maintenant, vous comprenez un peu. Il n'y a pas vraiment... Pasteur, on dirait qu'il n'y a pas vraiment de grande différence. Oui, il y a des nuances qui bâtissent les unes sur les autres. En terminant, je vais faire une seule phrase et vous allez voir comment ces choses-là se bâtissent comme des briques qui construisent un mur de bonheur de vivre la nouvelle nature en Christ. Crainte de Dieu. Quand vous entendez crainte de Dieu, je l'ai dit la dernière fois, pensez à respect révérentiel et obéissance. Crainte de Dieu, respect révérentiel, révérer la personne de Dieu, le considérer grand et lui obéir. Eh bien, il faudrait être sincère, dire que quand la Bible utilise le mot crainte, surtout dans l'Ancien Testament, deux fois, c'est littéralement craindre, avoir peur. C'est que Dieu inspire par sa majesté un sentiment de tremblement. Se dit, wow, devant qui je suis? Moi, j'ai déjà vu des gens devant des dignitaires, je sais pas si ça vous est déjà arrivé, d'être devant quelqu'un de très considéré, de haut placé, vous êtes là, vous perdez vos mots, des fois vous tremblotez presque, vous savez plus ce que vous êtes en train de dire. Il inspire un profond respect où tu te demandes, est-ce que je me tiens bien? Est-ce que je suis dans la norme? Tu sais qu'il a un tel pouvoir qui peut mettre ta vie en risque et tu te dis, comment me tenir vis-à-vis de lui? Dieu devait produire ses sentiments en nous. On s'est dit, devant qui je me tiens. Waouh, il a le monde entier dans sa main. Oh, respect à toi, profond respect à toi, prêt à t'obéir. Tout ce que tu diras, je le ferai. C'est ce qu'on appelle la crainte de Dieu. L'attitude intérieure. Que Dieu me voit où que je sois. Et je dois tenir cette révérence, même quand je ne le vois pas. Où que je sois, je sais que sa présence est là. Et je me tiens en présence du roi. Je vous explique. Imaginez, moi je l'ai déjà vu souvent dans le, au milieu des militaires surtout. Le général arrive, la personne la plus haut gradée arrive. Tu vois, tout le monde est en train de saluer. Mes respects au chef, mes respects. Il arrive, quand il parle, tout le monde tremble. Il fait ce qu'il a à faire, il dit son discours, il part. Quand il part, tu ressens tout de suite que il est parti, le degré d'autorité et de crainte a changé. Certains se relaxent, d'autres se mettent à rire même. Ils font ce qu'il avait dit, ils le font à la manière, en causant comme ceci, comme cela, comme s'il n'était pas là. Ça, c'est vrai. Ça s'appelle obéir. Il a juste fait ce qu'on lui avait demandé de faire. Mais la crainte, c'est même quand le général est parti, on est en train d'obéir ce que le général a dit, comme s'il s'était né juste à côté de nous. On ne fait pas les choses à se dire, ah, il n'est même pas là, il est déjà parti, faites comme vous voulez. Non. Après que le général a libéré sa parole se tient à côté de moi comme si c'était lui-même. C'est ce qu'on appelle la crainte de Dieu. C'est-à-dire de vivre tout le jour dans sa vie, où que l'on soit, dans toutes les relations, physiques, spirituelles, émotionnelles, en privé comme en secret, vivre tout le jour comme s'il était toujours là. Pourquoi je dis comme s'il était? En fait, en réalité, il est toujours là. De prendre conscience qu'il est toujours là. La crainte que tu as de lui quand tu adores, que tes larmes coulent et tu te dis « Dieu est ici » et tout en toi tremble, c'est la même que tu dois avoir quand tu es au travail et que tu es dans les affaires avec quelqu'un et que tu as l'opportunité de lui faire du mal. Personne ne te voit. Tu aurais pu faire un geste ou faire une formule qui fait que tu puisses lui prendre son argent sans qu'il s'en rende compte. Tu puisses frauder. Dieu dit « Tu es dans les affaires, tu ne me vois pas, tu fais les affaires, mais sache que je suis là. Prends conscience que tu dois respecter ma présence. » Et la Bible explique que cette crainte-là, nous l'avons plus par peur, mais nous l'avons par amour. Je donne un autre exemple. Je vis au quotidien, je vais dans des endroits, je vais par-ci, par-là, je rencontre plein de gens. Mais quand je rencontre une personne, une dame, quand elle doit me parler en privé comme en public, il y a une circonférence qu'elle ne peut pas dépasser. Je ne vais pas la laisser être si proche de moi. C'est qui? Est-ce qu'elle? Pourquoi? C'est pas parce que ma femme n'est pas là. Bon, elle va pas voir, je vais le faire. Ou que j'ai peur de ma femme. Non. J'aime ma femme. Et dans notre relation, il y a un degré d'appartenance où je respecte notre engagement. Je crains de faire ça par amour. Maintenant, ma crainte n'est plus motivée de peur. Elle est motivée d'amour et d'engagement. Puisque je me suis engagé, je ne m'appartiens plus à lui, à moi-même. Quand on dit à l'église, vivez dans la crainte de Dieu, ça veut dire vivez partout dans la conscience comme si le souverain puissant est là, juste tout le jour avec vous, où que vous alliez. Une fois, j'ai vu un documentaire, on était en train de tester un peu l'élément de la conscience des gens. On a donné aux gens un travail à remplir et on leur a dit, mais remplissez ce travail et tout. Mais il y avait des réponses à côté, les gens pouvaient voir, des fois ils trichaient, des fois... Ceux-là, ils l'ont fait comme ça. Mais d'autres, on a donné le même travail dans la pièce où ils étaient avant de partir. On dit, vous devez savoir que cet endroit où vous êtes assis en train de faire cet examen, il y a ici en même temps l'esprit de ceux qui vous ont précédé, qui voient et qui savent ce qui se passe. Dès qu'on leur a donné la conscience qu'il y avait une autre présence invisible, ils n'ont pas osé tricher, ils n'ont pas osé. Ils avaient comme l'impression que quelqu'un les voyait. Mais ça, c'était qu'un trick psychologique. On a juste joué avec leur tête. Mais le chrétien vit en sachant que c'est vrai. Dieu me voit partout. Il est avec moi partout. Pour ça, je dois lui faire plaisir d'honorer notre engagement. C'est ça la crainte de Dieu. Ésaïe chapitre 66, verset 2. Toutes ces choses, ma main les a faites et toutes ont reçu l'existence, dit l'Éternel. Voici Voici sur qui je porterai mes regards. Sur celui qui offre et celui, désolé, sur celui qui souffre et qui a l'esprit abattu. Sur celui qui craint ma parole. Dieu dit, je porterai mon regard. Toutes ces choses dans l'univers, c'est moi qui les ai faites, ça m'appartient. Mais si j'ai quelqu'un que je dois regarder en particulier, le considérer spécialement, c'est celui qui craint, écoutez, ma parole. La crainte de Dieu, c'est, je considère que la parole de Dieu, c'est Dieu où que je sois. Puisque je l'ai et je sais ce qu'elle dit, c'est Dieu qui est là devant moi, je respecte sa présence. Acte 9, 31. L'église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie. S'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur, elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. La crainte de Dieu n'est pas une affaire de l'Ancien Testament. Ce n'est pas une phrase qu'on sort comme une épée pour nous ramener dans l'Ancienne Alliance. Non. L'Église vit dans la crainte du Seigneur. La crainte de Dieu, c'est un plaisir, c'est un bonheur, c'est une conscience de mon engagement et de mon alliance, de savoir que je lui appartiens, il m'appartient. Ce qu'il a dit, j'y respecte parce que ce qu'il m'a dit, sa parole, c'est lui. Enfin, le terme qu'on est déjà en train d'exploiter, je ne vais pas durer dessus, c'est le terme sanctification, qui lui est un processus de transformation spirituelle. Quand on dit sanctification, pensez tout de suite que c'est un travail qui est en train de se faire encore par le Saint-Esprit. Sanctification égale donc processus de transformation spirituelle. Voilà, bien écrit là sur ce tableau, processus de transformation spirituelle. 1 Thessaloniciens 4:3 dit, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, ce que vous vous absteniez de l'impudicité. Hébreux 12:14 dit, cherchez la paix avec tous, et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Je n'insiste pas beaucoup sur la sanctification parce que c'est elle qui est le sujet principal. Alors, essayons de résumer, de mettre tous ces concepts ensemble pour qu'on comprenne très bien. Voilà la phrase que j'ai faite. Elle est un peu longue, mais je tente de superposer chaque concept pour qu'on ait un peu la clarté. Écoutez-la. C'est par la crainte de Dieu que nous vivons la pureté dans la sanctification qui exprime notre sainteté. Je répète. C'est par la crainte de Dieu, c'est-à-dire l'attitude intérieure de respect et de vénération, c'est parce qu'on a ça dans nos cœurs, que nous vivons la pureté. C'est-à-dire, nous vivons dans l'abstinence et nous vivons dans l'éloignement de la suie. Nous vivons la pureté dans la sanctification. C'est-à-dire, nous nous éloignons de la suie parce que ça fait partie de notre transformation progressive qui consiste d'un côté à se séparer du péché, de l'autre à obéir à Dieu. C'est ça le processus appelé sanctification. Dans la sanctification qui exprime notre sainteté. C'est-à-dire, ça exprime le fait que nous sommes en réalité une race mise à part. Ceux qui sont saints vivent dans la sanctification par une vie de pureté selon l'attitude de leur crainte de Dieu. La crainte de Dieu est à l'intérieur. C'est elle qui nous pousse à être loin du péché et à être consacré que pour Dieu parce qu'il nous a déjà mis de côté en sa faveur. Je répète cette phrase, elle va nous aider. C'est par la crainte de Dieu que nous vivons la pureté dans la sanctification qui exprime notre sainteté. Vous avez compris, le Saint-Esprit va vous aider à être totalement différent. Ça fait du bien de vivre la sanctification. Voyons-nous demain et creusons encore davantage. Dieu vous bénisse.
Cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des partenaires de MCI TV. Retrouvez toutes les émissions de Teach sur emcitv.com.